je commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous faire partager nos coups de cœur. Alors aujourd'hui, comme je suis tout seul, j'ai pris un auteur qui a un peu changé ma vie, si je puis dire, Robert Cormier. Alors ça a changé ma vie dans le sens où, quand je suis arrivé en librairie jeunesse il y a quelques années maintenant, je connaissais rien à littérature de jeunesse, hein, ni à littérature adolescente, et un jour ma responsable m'a dit « essaye Robert Cormier ». Donc je vais vous parler du premier livre que j'ai lu et de son dernier, puisque cet auteur américain est mort en 2000 en fait. Et son premier livre que j'ai lu, c'était « À la brocante du cœur ». Ce livre est assez particulier, c'est le plus facile pour entrer dans Robert Cormier, et en même temps, voilà, il est très étrange. Je vais vous le raconter, ça va être plus simple. L'histoire, elle est assez simple au départ, et assez triste. Alice, une petite fille de 7 ans, est retrouvée morte sur un chemin de forêt, le crâne fracassé. Jusque-là, c'est un triste événement, mais le problème, c'est que le petit-fils du sénateur était dans la même classe qu'elle, et qu'avoir un meurtre non élucidé sur les bras en pleine année électorale, ça passe pas. Mais il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de suspect, il n'y a rien, on n'a rien. Le seul témoin, c'est un petit garçon, Jason, 12 ans, petit gamin très sympa qui a passé l'après-midi avec elle. Ce qui étonne un peu la police à ce moment-là, puisque entre 12 et 7 ans, on peut se dire qu'il n'y a pas tellement de points communs, mais ce petit gamin voilà, préférait s'amuser avec elle qu'avec le grand frère qui a son âge. Alors, on va appeler Trent. Trent est un personnage à part, c'est un spécialiste de l'interrogatoire. Pas le méchant flic ni le gentil flic, lui il fait tout. Il fait les deux. Il arrive à faire avouer des gens des crimes après des heures et des heures d'entretien. Il a une touche magique, comme on dit. Et il s'ennuie dans le Vermont, il est dans un petit bled, et voilà, il aimerait bien changer d'air, surtout depuis que sa femme l'a quitté, il est très, très seul. Alors le sénateur va faire appel à lui, et on va lui dire, écoute, voilà, ton job, c'est de faire avouer ce gamin. Ce gamin, a priori, innocent. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais il faut qu'il avoue. Et là, on est parti. Tout le cœur du roman va être de ce débat, ce dialogue entre cet homme et ce jeune gamin de 12 ans, épris de liberté et de justice, finalement, puisqu'il a 12 ans, il voit la police comme des gens super sympas et tout ça. Enfin, voilà, comme dans les séries télé, quoi. Et ben là, non, il se retrouve avec un homme qui lui dit « Mais comment ça se fait que tu joues avec cette petite fille de 7 ans? Est-ce que tu te sentais inférieur à elle ? Comment ça ?» Et ainsi de suite. Et tout ce débat va s'articuler entre ces deux personnages-là, jusqu'à la conclusion, le dénouement final, que je vous laisse découvrir. Et là, voilà, on rentre dans Robert Cormier. Robert Cormier, c'est de la psychologie. C'est que de la psychologie. C'est tout le temps, c'est une montée en échelle. C'est, voilà, c'est un escalier. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire assez simple, assez basique, qui nous emmène voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, et vraiment la dernière ligne, où on s'arrête et on fait « Ouf, où je suis passé ?» Et ben voilà, Robert Cormier, à Brocante du cœur, c'est le premier, c'est un cours, c'est juste un interrogatoire entre un homme et un jeune enfant. Ah, le deuxième. Alors celui-là, il est encore plus bizarre. C'est La guerre des chocolats. Alors, il faut savoir que Robert Cormier a souvent basé ses histoires à Monument, une petite ville des États-Unis, au nord des États-Unis. Je ne me suis pas renseigné sur la géographie malgré que je les ai tous lus. Qui doit être au nord des États-Unis, avec une frontière pas loin du Canada, je pense. Parce qu'il y a une forte population québécoise et canadienne dans ces romans, qui va parfois être au cœur d'ailleurs du roman. Surtout sur le prochain, en fait. Dans La guerre des chocolats, on arrive, on est a priori au fin de collège, début de lycée, je pense, pour les âges, on ne sait pas trop. Il n'y a pas tellement d'âges, c'est des premières années, des quatrièmes années. Donc on peut supposer des lycéens. Et il faut s'imaginer que dans tous les collèges, dans tous les lycées de France et dans les collèges, vous savez, il y a une bande, cette bande de jeunes qui est un peu, voilà, qui martyrise les plus jeunes, qui leur prend leur résultat de cours, par exemple, vous savez, un peu de raquette. Et bien là, Robert Cormier imagine une version un peu plus, voilà, c'est toujours pareil. Robert Cormier imagine quelque chose d'un peu plus grand, il va plus loin. Ça s'appelle les vigiles. Les vigiles sont dirigés par Archie Costello. Archie Costello est un jeune garçon très, très intelligent, très sadique d'un côté, très cynique, et surtout avec des idées magnifiques. Et donc, chaque élève a une tâche. Quand il donne une tâche, en fait, ça s'appelle la tâche. La première tâche, par exemple, qu'on va découvrir dans le roman, ça va être de démonter une classe. Un des gamins va être choisi. Il a toute une nuit pour démonter une classe, dévisser tous les meubles. Tout. Les tables, les bureaux, les chaises, tout. Pour que tout s'écroule le lendemain matin en cours. Bien sûr, sachant que personne ne sera accusé, puisque personne n'a rien vu. C'est la tâche des vigiles. Et Archie Costello, donc, est le maître d'œuvre, en fait, maître d'orchestre de cette bande. Et il a un problème. C'est-à-dire que nous sommes dans une école catholique. Alors, c'est pour ça que les romans, parfois, sont un peu vieillis de ce côté. Nous sommes dans une école catholique, dans une espèce de pensionnat assez sévère. Et frère Léon, donc, le nouveau directeur, puisque l'ancien directeur est à l'hôpital, le nouveau directeur est assez étrange, puisqu'il a décidé que cette vente de chocolat, puisque, comme dans toute série américaine qu'on peut regarder parfois à télé, ils ont les ventes de chocolat, les bénévolats pour aider à l'école ou alors pour financer un voyage. Vous savez, ils font du porte-à-porte et ils vendent des chocolats. Et le frère Léon dit, voilà, écoute Archie, si tu veux continuer à faire ce que tu veux avec les vigiles, tu vas me rendre un service. Tous les élèves vont devoir vendre des chocolats. Tu te débrouilles comme tu veux et je te laisse tranquille. Archie, bien sûr, dit oui, c'est la première fois qu'on appelle les vigiles, on va dire, de façon officielle comme ça. Donc, c'est une sorte de reconnaissance, mais on va découvrir très vite qu'il y a un élève, Jerry Renault, qui lui va dire non. On découvre après 50 pages que c'est sa tâche. Archie Costello n'aime pas trop se faire dominer. Donc, c'est sa tâche. Sa tâche, c'est de dire non chaque jour. Chaque jour, parce que chaque jour, on fait l'appel pour savoir qui a vendu les chocolats, combien. Et lui, chaque jour, va dire non. Non. Jusqu'au 10e jour. Le 10e jour, c'est la fin de sa tâche, puisque c'était la tâche de Jerry Renault. Et là, problème, le 11e jour, il ne sait pas pourquoi d'ailleurs, Jerry, il n'a aucune idée, il dit non. Il dit non. C'est la fin de sa tâche pourtant. Il devrait dire oui, mais il dit non. Et là, bah là il y a un problème, parce que mettre l'autorité à mal de frère Léon et de l'école, ce n'était pas un problème. Mais les vigiles, par contre, c'est un autre problème. Et là, on va basculer dans cette escalade. Toujours pareil avec Robert Cormier, on commence à monter. On va avoir des menaces physiques. Le gamin va se faire malmener par certains des gros bras que Archie Costello va envoyer. Il y a les coups de fil à la maison, le racket, ainsi de suite. Et là, on bascule. Et Jerry Renault, pourtant, ne renonce pas. D'un coup, au départ, ce qui était comme une sorte d'erreur, en fait, il avait dit non par réflexe, et bien, il s'aperçoit qu'il a envie de déranger l'univers. Comme il le dit lui-même, oserais-je déranger l'univers? Bah oui. Il a envie de changer les choses. Il a envie de dire, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je me laisserais dominer? Et jusqu'à la fin, voilà, on va avoir cette escalade qui finit sur un truc assez sanglant, finalement. Mais cette escalade provient, voilà, du fait que Archie Costello, au bout d'un moment, perce les moyens lui aussi et n'a plus de moyens de pression sur ce gamin. Le seul moyen de pression qu'il a, finalement, il le perd, puisqu'il le perd son autorité et il risque de perdre son autorité sur les vigiles. Et il faut savoir que les vigiles ont aussi une sorte de garde-fou. Alors, c'est un garde-fou que j'aime beaucoup, qu'on va retrouver dans la suite de la guerre des chocolats, qui est après la guerre des chocolats, justement, où ils ont un sac avec 5 billes blanches et une bille noire. C'est un garde-fou, puisque Archie Costello, à chaque fois qu'il donne une tâche, doit piocher une bille. S'il pioche une bille blanche, donc, celles qui sont au nombre de 5, il ne se passe rien, le gamin fait la tâche. S'il pioche la bille noire, c'est lui qui doit faire la tâche. Ce qui permet en fait d'éviter justement d'avoir des gages, enfin des tâches, donc trop inhumains. Sauf à la fin, justement, où il y aura ce petit gage un peu étrange, qui n'est pas un gage, qui est un combat de boxe. Pour faire clair, il faut le lire pour comprendre, mais ça va finir en combat de boxe, entre le gamin et un boxeur, en fait, hein, clairement, une salle brute. Donc, voilà, ce roman est, encore une fois, voilà, c'est du Robert Cormier, c'est-à-dire qu'on a une escalade, une psychologie des personnages, puisque Archie Costello, on va le suivre pendant tout ce roman, et surtout dans le deuxième volume aussi, ce gamin qui est un chef d'orchestre extraordinaire, mais aussi horrible, enfin sadique et totalement contre l'autorité. Et on va suivre Jerry Renault qui, lui, essaye de déranger l'univers pour une fois. Ah, le troisième. Alors, le troisième, c'est un peu particulier, puisque là, c'est un roman assez étrange. C'est La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, alors, c'est un roman que, quand je l'ai lu, je me suis demandé où il était parti, là. Il est, encore une fois, voilà, Robert Cormier imagine un truc et nous emmène ailleurs. Il nous part d'une histoire très simple et il nous emmène quelque part d'horrible. La balle est dans ton camp, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Henri. Henri, un jeune homme qui travaille chez un épicier, Monsieur Hurston. Un épicier assez méchant, hein. Voilà, pas l'épicier sympa du coin. Et il travaille parce que voilà, son père est, je crois que son père est malade et sa mère ne travaille pas non plus. Donc l'argent qu'il gagne permet de faire nourrir sa famille, clairement. Il n'aime pas ce travail, hein, mais faut bien manger, quoi. Faut bien manger. Et il se fait un petit plaisir le soir. Il va voir un asile, un petit asile de fous. Et il va voir un vieux bonhomme qui reproduit, je crois, une maquette de la ville pour un concours. Il est en train de reproduire une maquette de la ville ou de l'église. Je ne sais plus bien ce qu'il reproduit. En allumette. C'est un petit... Voilà, c'est le passe-temps au vieux monsieur. Et Henri l'aide et parle avec lui. Jusqu'au jour où monsieur Hurston, voilà pourquoi ça s'appelle « La balle est dans ton camp », lui dit « Bah écoute, tu veux travailler pour moi encore ? Eh bah tu vas détruire cette maquette. » Il n'a aucune raison de le faire. Hein. Clairement, il ne connaît pas, il ne participe pas au concours. Mais il veut montrer qu'il a de l'autorité sur ce gamin. Et là, tout le reste du roman sera « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que Henri fait, en fait ?» Soit il perd son travail, et donc il perd la possibilité de nourrir sa famille, soit il détruit la maquette de ce vieux monsieur qui n'a rien fait, qui est totalement innocent. Et du coup, voilà, c'est un Robert Cormier totalement étrange, encore une fois, sur totalement de la psychologie. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à un moment ? Et tous ces romans sont comme ça. Voilà, ça, c'est un roman qui est très parlant au niveau du Robert Cormier, dans le sens où on va aller chercher encore quelque chose d'un peu plus loin, d'un peu plus fort. Et si, voilà, les gentils n'étaient pas si gentils que ça, surtout dans le prochain, d'ailleurs, que je vais parler. Mais voilà, Henri est bloqué. Et il va prendre une décision. Donc là, pareil, il faut le lire, hein, parce que si je dis ce qui se passe, c'est moins drôle quand même. Mais voilà, encore une fois, c'est entre ce bonhomme, monsieur Hurston, très méchant finalement, voilà, il est horrible, et Henri, ce gentil gamin qui cherche à nourrir sa famille, et ce vieux monsieur qui a rien fait et qui a juste fait une maquette. Voilà. Et c'est juste un acte d'autorité gratuite, méchante, tyrannique. C'est Robert Cormier parfois sur des hommes qui peuvent abuser de leur pouvoir. Ah, et le dernier, après la première mort. Alors ça, c'est un récit assez étrange, finalement. C'est un récit, une prise d'otage des enfants militaires, donc américains, pris en otage par des monstres, des hommes sans cœur. Ils sont quatre, ils sont armés, c'est des terroristes, c'est des gamins en face. Hein. Ils ont entre 6 et 8 ans, plus une nana, une remplaçante, une jeune fille, qui les emmenait au centre de loisirs. Et d'un autre côté, il y a les gentils, les bons, les soldats américains, les tireurs d'élite, les généraux... 4 étoiles, les grades, les gens qui protègent la démocratie. Mais si c'était pas ça, si c'était l'inverse, si les terroristes, en fait, c'était juste des hommes avec des rêves qui voulaient avoir des droits. Et si les gentils américains, enfin les gentils soldats américains pour le coup, là, eux étaient les monstres finalement, étaient prêts à faire passer l'intérêt général avant la vie des enfants. Eh bien c'est ça le récit. Le récit, on va suivre un récit en parallèle. Alors ce qui est très marrant, c'est un truc qui fait pas mal dans ces romans aussi, c'est le récit en parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, on va suivre un gamin, Ben, à l'hôpital après le car, après l'épisode du car, puisque c'est une prise d'otage sur un pont, après l'épisode du car, qui nous raconte un peu comment il se ressent, comment il ressent le truc, et comment il va revoir son père, qui est donc général américain. Et en parallèle, on va suivre l'histoire pendant le car. Les terroristes, qu'est-ce qui se passe dans ce car pendant ces heures où ils sont enfermés tous ensemble et où ils sont entourés par les soldats américains, des tireurs d'élite. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, on va découvrir en fait, ouais, que les gentils, bah, ils sont pas si gentils que ça. Le père fait quelque chose d'assez horrible. Il sacrifie son fils, en fait. On va découvrir ça, qu'il va sacrifier son fils quand même pour arrêter ces hommes-là. Alors que ces hommes, finalement, on va découvrir, eux, d'un autre côté, qu'eux sont plus... Comment dire ? Plus humains qu'on le pensait. Ils n'essayent pas de faire du mal aux enfants, ils vont en faire malheureusement, mais ils n'essayent pas au départ. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des hommes qui ont une religion, qui ont une croyance, qui ont des droits, et qui veulent qu'on les respecte, ces droits. Voilà, c'est un récit assez étrange où Robert Cormier inverse un peu le truc lambda, si je puis dire, dans le sens où on pourrait croire que bah, les gentils, c'est les gentils. Hein. Eh ben non, là, finalement, c'est pas eux les gentils. Ou pas forcément eux, finalement. Peut-être que l'intérêt général primait d'abord sur ça, ou peut-être pas. Alors voilà, Robert Cormier, c'est tout ça. Robert Cormier, c'est de la psychologie. Robert Cormier, c'est plein, plein de choses. C'est deux romans épuisés. D'ailleurs, si les éditions L'École des loisirs m'entendent, ce serait bien qu'il les réédite, parce que L'Éclipse et Je suis le fromage sont deux récits qui doivent être lus, mais qui n'existent plus, malheureusement. Je persiste et signe à vouloir les retrouver. Donc voilà, Robert Cormier, voilà, c'est un auteur que vous trouvez en médiathèque et en librairie. Vous pouvez vous fournir. Voilà. Donc n'oubliez pas, les livres s'achètent en librairie, s'empruntent en médiathèque. Et pour Robert Cormier, jetez-vous dessus, c'est magnifique et c'est tellement intelligent. Et pourtant, ça date de très très longtemps et ça n'a pas vieilli d'une seule ride.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.